Oui, bonjour. J'appelais parce que il y a quelques heures, j'étais à recalculer. Je suis en train de créer mon entreprise qui sera officielle, je pense, en fin d'année. Et j'ai découvert que j'avais plus droit à rien, que ça allait être, sûrement être très dur. Je me suis pas trop bougé parce que je crée l'entreprise et que ça me prenait du temps. Et j'ai appris hier que finalement, j'allais être réintégré, que j'allais avoir un petit peu d'argent devant moi pour pouvoir mener à bas mon projet. Et je voulais dire que je suis très fier des gens qui se sont battus, et c'est grâce à eux que je vais peut-être pouvoir aller jusqu'au bout. Et je leur remercie, je les remercie tous vraiment du fond du cœur. Et je me dis que les entreprises qui les ont pas embauchés ou les entreprises qui ont licencié ces gens qui se sont battus, ils ont fait la plus grosse connerie de leur vie. Et vraiment, encore une fois, je les remercie et je suis vraiment très 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 fier du travail qu'ils ont fait. Ça fait des années que j'écoute. Là-bas, si j'y suis, et cette fois-ci, je peux pas faire autrement que d'appeler pour remercier ces gens. Voilà, c'était Laurent d'Ardèche.
Bonjour à tous, bonjour Monsieur Mermet. Écoutez, simplement une réaction de plus, j'imagine, par rapport au recalculé. Une simple chose, peut-être une question idiote. En revanche, est-ce que selon Monsieur Borloo, réintégration à partir de ce jour signifie rétroactivité de la même manière à partir de ce jour? Une simple question technique, mais qui me semble à toute son importance. Voilà, à bientôt.
Voilà, heureux comme un recalculé aujourd'hui. Vous le savez, les chômeurs recalculés ont été rétablis dans leurs droits. C'est le résultat d'une lutte qu'on a essayé, d'un combat, de revendication dont on a essayé de se faire l'écho dans cette émission depuis des mois. Donc voilà, ça montre qu'on ne perd pas toujours. Et on a voulu joindre l'un des acteurs de cette revendication, de ce combat, c'est Maître Gérard Boulanger, qui est avocat à Bordeaux, et pour qui, oui, bien sûr, c'est une victoire, mais Gérard Boulanger.
Maître Gérard Boulanger, alors vous avez été un des principaux avocats engagés dans la bataille des chômeurs recalculés. Et hier soir, Jean-Louis Borloo a déclaré que les chômeurs recalculés seraient réintégrés dans leurs droits. C'est une grande victoire aujourd'hui.
Ça, il faut dire que je ne vais pas bouder notre plaisir. Nous avons le sentiment que symboliquement, nous avons gagné. Que ce soit un représentant du gouvernement qui dise que, un, le contrat PAR était bien un contrat, ce qu'on a toujours soutenu, et que pas beaucoup de gens étaient prêts à croire au mois de décembre. Et deuxièmement, qu'il s'agissait d'une grande injustice sociale si les chômeurs avaient été privés de leurs droits. De ce point de vue-là, les choses sont absolument parfaites. Sauf que, quelles sont les garanties juridiques, quelles sont les garanties financières? Et là, il y a un grand doute. Il y a un grand doute parce que comment va agir le gouvernement, par quels moyens juridiques, notamment. Moi, j'aurais préféré entendre Monsieur Gauthier Sauvagnac, président de l'UNEDIC, dire « Oui, ben, c'est bien un contrat et on va payer. » Parce que c'est pas Monsieur Borloo qui va payer. Monsieur Borloo, lui, au niveau des garanties financières, qu'est-ce qu'il nous offre? Il dit « Je renonce provisoirement à demander une créance que j'ai sur l'UNEDIC. » Mais ça, c'est une ligne comptable. En plus, on le sait par les échos d'hier, c'est une ligne comptable fictive qui n'existe ni en dépenses à l'UNEDIC, ni en recettes au budget de l'État. Et ça fait en plus pas un centime supplémentaire dans les caisses, compte tenu du fait que ce n'est pas de la trésorerie tout ça. Alors qui va payer et comment? Et en même temps on nous dit il n'y aura pas de cotisation supplémentaire. Alors moi je souhaite bon courage aux négociateurs qui vont s'asseoir autour de la table. Je prévois d'ailleurs qu'on risque d'avoir une recomposition du front syndical, si j'en crois les déclarations de M. Chérec, qui maintenant déclare qu'il faut une augmentation des cotisations qui permettrait de financer la rentrée dans le système des recalculés. Mais cela dit, je n'oublie pas les gens qui arrivent après.
C'est ça, ceux qui sont entrés après le 1er janvier 2003
absolument
dans le PAR n'auront droit qu'à 23 mois d'indemnisation.
Absolument. Et c'est pour ça que nous disons, nous continuons la bataille. Je dépose aujourd'hui 200 demandes supplémentaires à Bordeaux, tant au tribunal d'instance qu'au tribunal de grande instance. Et je compte en déposer au moins autant d'ici la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que on n'a aucune garantie, les effets d'annonce on connaît, Monsieur Borloo on connaît, il nous avait fait le coup pour le logement social, il devait créer je ne sais combien de centaines de milliers d'habitats sociaux de plus, il n'y a rien eu ou pratiquement rien. On sait que ce gouvernement on passe son temps à communiquer plutôt qu'à agir, il a ses jours mesurés dans le temps jusqu'aux européennes, donc il essaye de tirer son épingle du jeu. Au passage, le MEDEF, lui, tire les marrons du feu parce que c'est le contribuable qui est censé payer et on lui donne quitus du fait qu'il n'y aura pas dans l'ordre du jour de la négociation sociale le fait de l'augmentation des cotisations alors que c'est le MEDEF qui a vidé les caisses en 2002. Excusez-nous, mais ça ne suffit pas. On ne boude pas notre plaisir d'avoir symboliquement gagné, mais on continue la bataille parce que les victoires à la Pyrrhus, on n'est pas preneur. Je suis un avocat des causes populaires et ça me plaît. Voilà, c'est tout.
Voilà, donc le combat continue du côté de cet avocat, Gérard Boulanger. Autre son de cloche, Philippe Villechalane, qui est porte-parole d'une association de chômeurs qui s'appelle l'APEIS et que nous avions rencontré au cours de ces combats et d'un combat d'ailleurs qui continue. Philippe Villechalane.
Philippe Villechalane, alors vous représentez l'APEIS, une des associations qui ont porté le combat des recalculés depuis le début. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir obtenu ce que vous désiriez sur le fond ?
Alors, sur le fond, pas vraiment. Mais enfin quand même, avant de venir au fond, c'est une victoire sans précédent pour le mouvement des chômeurs. Je crois que c'est à noter, puisque 2 milliards vont être rendus aux chômeurs qu'on avait spoliés de leurs droits. Donc, c'est une victoire. Mais, évidemment, ça va pas au bout du bout, parce que dans 7 mois, c'est une forme de sursis qu'on a obtenue. Dans 7 mois, s'il n'y a pas une renégociation sérieuse du système d'indemnisation du chômage, on sera plongé dans les mêmes difficultés. Donc, il faut très vite qu'il y ait une table ronde au ministère du Travail, avec toutes les parties concernées, les syndicats bien évidemment, l'État puisqu'il met sa poche, les patrons s'ils le souhaitent, et les associations maintenant que se sont donné les chômeurs, pour discuter d'une nouvelle négociation du chômage, dont le but est d'indemniser correctement toutes les formes de chômage, et pour ça on a des solutions financières. Principalement, aujourd'hui, les cotisations sont basées sur la seule masse salariale. Pour aller vite, une entreprise qui crée ou qui maintient des emplois est pénalisée par rapport à une entreprise qui licencie. Donc on demande un système de modulation des cotisations en fonction du recours à la précarité et au licenciement, et de l'autre côté, du maintien des emplois et des conditions de travail décentes. Ça, c'est la première des mesures. La seconde mesure, c'est justement pour qu'on ne taxe pas tout le temps que le travail sur la masse salariale, qu'on fasse payer les entreprises sur leurs plus-values, leurs profits et leurs revenus financiers.
Donc le gouvernement recule sur les recalculés, mais vous restez mobilisé.
À nous, on va continuer. On va fêter l'événement, mais on est très très mobilisés. On a lancé ce matin, partout où on le pouvait, des assemblées générales des recalculés et de l'ensemble des chômeurs pour peser sur les prochaines négociations. Aujourd'hui, les associations de chômeurs ne confondent pas les genres. On va en justice, mais on continue à mobiliser. Mais on est aussi en justice au Conseil d'État pour faire annuler l'ensemble de la convention. Et il y a de fortes chances qu'on ait gain de cause. Je crois que Jean-Louis Borloo, hier, dit qu'il remet la justice en place. Je crois que Jean-Louis Borloo... Tout simplement, il est informé que les associations de chômeurs étaient débordées par les appels et la constitution des dossiers en assignation des ACEDIC et qu'il a pris la mesure de ça. Il ne voulait pas que ça devienne une affaire nationale, il coupe l'herbe sur le pied. Nous, ce qu'on y voit, c'est que 613 000 chômeurs immédiatement, mais 856 700 qui étaient concernés, vont retrouver leurs droits et obtenir un sursis qui va leur permettre de rebondir. Donc voilà. En même temps, il faut quand même noter que les 4 premiers dossiers, ils ont été déposés... par l'APEIS à Bordeaux en mi-décembre, suivi de très près par la CGT chômeurs à Marseille, et ensuite par les autres associations. Ça veut dire quand même que c'est les chômeurs qui ont obtenu cette victoire, c'est leur solidarité, c'est leur colère, et leurs associations, je crois que c'est à noter. Ça veut dire qu'il n'y a finalement que les combats qu'on ne mène pas, qu'on est sûr de perdre.
Bonjour, je suis Corinne de Seine-et-Marne, impliquée par la situation des recalculés. J'ai participé à l'émission La Basse et J'y suis concernant ce sujet sur France Inter. Je voudrais dire un grand bravo à tous ceux qui ont mené ce combat avec brio et particulièrement à Charles Warroux et François de Sentier de la CGT qui se sont tant investis pour que les chômeurs recouvrent leurs droits. Merci à Véronique Bautista pour son implication sans limite auprès des gens. Une grande pensée à Lina, Sonia, Jean-Pierre. On a gagné, c'est grâce à la CGT. Moi, hier, je me suis syndiquée pour la première fois et j'espère que les gens qui ont été soutenus dans cette réussite sauront être reconnaissants autant que moi. Merci et encore vraiment merci à Charles et merci à François de Santy. À bientôt, au revoir.
Voilà, Corinne, qu'on avait entendu effectivement dans une émission, un reportage de Guy Vanctil. Et elle faisait partie de ces gens qu'on a vus dans les défilés du 1er mai à Paris, pour qui c'était leur première manif, qui se retrouvaient là parce que recalculés, parce que découvrant, le sort de ces, des chômeurs, le sort de ces recalculés, spoliés dans leur contrat d'indemnisation. Et le sentiment qu'on a, évidemment, c'est d'un fabuleux gâchis, parce que c'est une victoire, une toute petite victoire qui ne résout évidemment pas la question de l'indemnisation du chômage, et encore moins la question du chômage. Et pourtant, faut-il le dire et faut-il encore le répéter, chacun dans sa vie a envie de s'investir dans son boulot, dans son rôle, dans son emploi, dans le travail, dans son métier, comme vous voulez, j'emploie tous ces mots à la fois, mais c'est un sentiment quand même tout simplement de gâchis qu'on éprouve devant cette masse de chômeurs dans notre pays. Et aujourd'hui, avec Sylvie Coma, on va revenir sur un reportage que vous aimez particulièrement, on le sait, parce que vous, très souvent, vous nous avez demandé de réécouter ce reportage qui se passe la nuit dans un hôpital avec des infirmières de nuit. Ce que des gens veulent faire de leur vie et dont ils sont trop souvent dans notre pays et dans nos systèmes empêchés. Infirmière de nuit donc. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis. 01 56 40 37 37.
Allô, oui, bonjour, c'est Claude de Nîmes. Voyez, j'appelle moi parce que je suis scandalisée d'entendre ce que j'ai entendu aujourd'hui aux infos, la bande de l'UMP qui demande le rétablissement de la peine de mort pour les terroristes, entre guillemets. Je suis scandalisée, quoi. Scandalisée, mais dans quel pays on vit ? Moi, j'ai souvent honte d'être française, quoi. Qu'est-ce que c'est cette histoire, hein ? Mais on vit dans une grande démocratie, soi-disant, ou quoi ? Alors qu'on demande à la Turquie, pour entrer dans l'Europe, de supprimer la peine de mort. Mais qu'est-ce que c'est cette mascarade ? Qu'est-ce que c'est cette connerie ? Enfin, je suis scandalisée. Bon, enfin. Et puis, il n'y a pas que ça. Hein. Ciao.
Oui, bonjour Daniel, c'est le groupe libertaire de Saône-et-Loire, La Vache Noire. Nous voulons simplement signaler que le jeudi 13 mai 2004 à 20h, à la maison des syndicats de Chalon-sur-Saône, nous recevons François Ruffin, l'auteur de l'essai Les petits soldats du journalisme, voilà, et j'espère que nous aurons du monde. Alors, nous comptons sur toi pour passer ce message. Merci.
10 millions de cartes vitales, de fausses cartes vitales. Ça y est, ils ont trouvé un nouveau truc pour noyer le poisson et pour encore culpabiliser les assurés sociaux. Mais quand est-ce qu'il y a un dirigeant syndical qui va dire clairement la Sécu, elle est aux travailleurs, c'est notre salaire différé, premièrement. Deuxièmement, il y a 113 milliards d'exonérations de charges sociales qui ont été opérées depuis 92. Et que les patrons rendent les exonérations et il y aura plus de trous de la Sécu. Il n'y en a pas un qui dit ça, mais c'est insupportable. Hein. On entend Thibault, alors vous êtes pour le dossier informatisé, on en discutera. Non mais, il n'y en a pas, je sais pas, moi je craque. Hein. Je sais pas comment vous réagissez, mais bon, j'ai écouté vos émissions sur la Sécu où vous disiez tout ça déjà. Hein, et entendre ces mecs qui sont censés nous représenter, nous défendre, répondre aussi mollement, mais ça rend dingue. Bon, allez, bonne journée, ciao.
Oui, bonjour, c'est Edgar de l'Est. Ce qui frappe le plus l'odorat du voyageur quand il arrive à Venise, c'est l'absence totale de parfum de crottin de cheval. Alphonse Allé.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Sylvie Coma.
Flight number 2, arriving from
New York. Ici, il y a le labo. Là. Enfin, ça fait, oui, ça fait des petites lumières, des gros, enfin des petits ronds. Oui, moi j'aime bien, j'aime bien les lumières dans la nuit.
Tu sens l'odeur de l'hôpital encore ?
Ah oui, ça, hélas. C'est une... On va monter par là.
D'accord.
Non, c'est de l'autre côté, pardon. Ça, c'est une de mes premières sensations que j'ai jamais perdues. l'odeur de la maladie, c'est un mélange de pisse, de sueur, d'humeur, de sang, d'excréments, enfin bref. Et tout ça, ça finit par s'imprégner. Il y a des odeurs qui collent à certaines maladies. Quand je passe devant les portes, je sais de quoi il s'agit. Bon, je parle pas des cancers du côlon, parce qu'il y a des poches, et donc évidemment. Mais même des cancers des voies génitales. Il y a vraiment des trucs. Les foies, enfin, toutes les maladies ont des odeurs spécifiques. Et donc, quand on passe devant les portes, on sait ces choses-là, on sent. Leur premier sommeil. Souvent, les insomniaques, ils commencent à se balader. Alors ici, c'est un service de cité. Hein. Donc souvent, dans ce service, ils sont très mobiles la nuit. Et ils bougent beaucoup, beaucoup. Ils ont besoin qu'on leur donne à boire, à manger, des petites choses comme ça.
Allez, entrez.
Bonjour.
Bonjour.
Vous dormez pas?
Oui, non, puis là, j'avais envie de regarder s'il y avait quelque chose là. Ouais, vous savez, à l'accueil, mais en fait, avec des boissons.
Oui, il y en a plus.
Besoin, oui, je vais pas arriver.
Vous avez envie de chocolat?
Oui, mais pour ça. Donc, ça fait un peu vite, un couloir d'hôpital comme ça, en pleine nuit. Hein. Quand on se réveille, quoi, qu'on a mal ou quoi, c'est important qu'il y ait quelqu'un. Voilà, la journée, au moins, il y a des choses qui se passent, un minimum, même si c'était pas des choses agréables. La nuit, c'est le moment le plus sombre, c'est banal ce que je dis, mais dans tous les sens du terme. Je vais vous laisser. Mais, bonne continuation, et puis.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Allez,
au revoir.
Vous avez déjà discuté avec lui la nuit?
Oui. Il y a son problème est essentiellement une impossibilité de s'adapter aux différentes trithérapies qu'on lui propose. Il est arrivé cet après-midi, donc là il voit venir, si j'allais dire. Dans 2-3 jours, si on n'a pas trouvé les bonnes molécules pour à la fois soigner son sida et ne pas avoir ses effets secondaires, à ce moment-là, c'est la grande question. Et c'est là où il ne dorme pas et où il tourne. Et là, c'est là où il faut être suffisamment, avoir les oreilles suffisamment en pointe pour entendre ce qu'ils ne disent pas.
La nuit écoute, la nuit limite. La mort est là, tranquille, têtue, avec ses sœurs, la douleur, ses frères, le désarroi, l'effroi, la mort est là, et elles font face à tout ça, des armées, en première ligne, désarmantes, mais au front, ultimes, fantassins et ambassadeurs de la vie. Parole de nuit aujourd'hui, infirmière, métier de misère, faut être gay, on s'y habitue pas, attention, chaque mot compte. Elles disent ça de toute leur âme, de tout leur cœur, de tout leur corps de femme vivante, rempart, ultime. La nuit ultime, chaque mot pèse son poids dans ces bouches vivantes, charnues, goulues, drôles de femme. Seule, face au mystère de la fin. Pas de grand discours la nuit, pas de certitude. Dans la nuit, il y a nu, on respire autrement. Oppression, réminiscence d'enfance, tout passe par là. L'hosto, l'hôpital aujourd'hui, est devenu à la fois notre case départ et notre case arrivée. Les deux bouts du parcours, limite, et elles sont là. Hosto, t'arrives, t'es un numéro, on te traite comme une bagnole, à réparer ou à la casse. Oui, peut-être, mais écoutez ce qu'elles disent la nuit. La nuit de Bligny. Hôpital de Bligny, dans l'Essonne, à 50 km de Paris, à l'orée de la vallée de Chevreuse. Ici, la nuit, elles affrontent seules tout ça. Et on va passer cette heure avec elle, avec ses employés de la santé, de la nuit avec Sylvie Coma. Vous vous dites c'est terrible, c'est déprimant. Peut-être, mais je voudrais bien qu'on commence cette nuit, puisqu'il s'agit d'une nuit avec en tête de phrase l'une des gares Morin qui dit « Ne pourrait-on dégeler l'énorme quantité d'amour pétrifiée en religion et abstraction, le vouer non plus à l'immortel, mais au mortel ?» Et puis, cette belle idée d'Albert Cohen qui dit que cette épouvantable aventure des humains qui arrivent, rit, bouge, puis soudain ne bouge plus, que cette catastrophe qui les attend ne nous rende pas tendres et pitoyables les uns pour les autres, cela est incroyable.
Alors là, je regarde chez qui on va. Bon, ça, c'est un patient qui a un cancer.
Allez bien ? C'est bon ce que vous regardez ?
Ouais.
C'est bien, ça vous plaît ?
Oui.
Bon, je vous mets l'aérosol en route, on fait comme d'habitude, vous le posez à côté,
oui.
Hein, je viens l'arrêter après.
D'accord.
Voilà, 10 minutes, hein.
Oui.
À tout à l'heure.
Oui. Bon, les femmes, là. Putain, mais on a mis, là, oui.
Quelle heure qu'il est, au moins 10h ?
Il est 10h20.
10h20 ?
Eh oui.
Ah, dis donc, ça passe, hein.
Ah, oui, oui.
Déjà, la moitié de la nuit passée.
Oh, la moitié, vous exagérez.
Ben, vous, pour nous, oui, pas seulement à 7h, il nous secoue les puces. Ils m'ont trouvé une grosseur en dessous, là. Alors, ils veulent voir ce que c'est, je crois. Ah, comme ça.
Et je vous ferme la porte ?
Non, non, laissez-la ouverte, parce que j'étouffe.
Moi, la nuit dernière, la nuit, elle a commencé à 6h du matin, parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Quand vous toussez et puis vous crachez, c'est pas facile. Hein? Et puis je me suis endormi, puis ils m'ont réveillé à 8h. Ils se demandaient si j'allais me réveiller.
Qu'est-ce que c'est ces grands placards-là ? Thé, serviette, chemise, pyjama, oreiller, sac à linge ?
On change les lits plusieurs fois par nuit, parfois, donc les patients qui se souillent ou qui transpirent.
Mm-hmm. Couches, absorbex, oui. Bavettes, crachoirs.
Mm-hmm. Il y a des petits chaussons, ils ont dû être oubliés par quelqu'un.
Non, là, il y a un trou, là. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, on va le débrancher, il va s'arrêter. Vous voyez ? Comme ça, on peut remettre le masque bien en place, tranquillement. Ouais.
Ah, j'ai été obligé de faire de la corde assise pour pouvoir le mettre dans le lit, tout ça.
En fait, les patients ne veulent pas qu'on ferme leurs portes la nuit.
Non,
toutes les portes sont ouvertes, hein. Toutes.
Ouais. Toutes. D'ailleurs, ils le disent tous systématiquement.
Ouais. Mmh.
C'est marrant.
La télé, quand on dort pas trop la nuit, on peut toujours se mettre la télé au ralenti.
Le cachet pour dormir.
Oui.
Pigeon !
Alors,
France Bordet.
Il est long votre couloir, dites donc.
Non, on va pas jusqu'au bout là. On s'arrête à la moitié, ça fait, je sais plus exactement, je crois qu'on a 50 mètres. Le couloir à peu près.
Et donc, vous mettez combien de temps à faire vos 50 mètres ?
Oh, une heure et demie.
Ça va être commode.
C'est long pour arriver au bout du couloir. Celle qui nous a donné envie d'aller à Bligny, dans cet hôpital de Bligny, c'est Anne Soliver, qui est infirmière. On l'avait rencontrée dans une manif, pour ne rien vous cacher, à Paris. Et elle est infirmière chef dans cet hôpital de Bligny. Et elle a écrit une thèse de doctorat sur la nuit de l'hôpital. La nuit du savoir ou les valeurs de l'ombre. Elle publiera un livre sur ce thème-là la nuit. Et voilà, c'est cette nuit de l'hôpital qui se donne à entendre. Une nuit limite.
Ça sent encore nichon.
Ben, c'est normal, oui.
Donc Aline, c'est la surveillante, elle dîne ici comme moi d'ailleurs, enfin nous on dîne toujours ici. Il y a les quatre infirmières et le médecin.
Et ici on est
en réanimation ici.
Et vous avez un petit Bordeaux là, il est un peu jeune mais il est bon.
On mange tous ensemble, mais on n'est jamais tous... Enfin, il y en a tout le temps un qui doit aller. Et là, ben, pour le moment, il y en a déjà deux qui sont pas là.
C'est où il y a du persil? Donc je l'ai fait mijoter à petit feu très longtemps, ça doit devenir une confiture de poivrons.
C'est limite. À ce temps-ci, moi, ça me donne pas faim. Okay.
Voilà.
Il y a quoi là?
Une seringue électrique. Ça permet de passer le médicament sur une petite vitesse.
Et qu'est-ce qu'il a ce monsieur?
Ça, c'est un monsieur apparemment qui a été opéré d'un cancer de l'œsophage. Donc on l'a intubé ventilé pour l'aider à respirer. C'est le respirateur qui respire pour lui.
Ça veut dire que sans cette machine, il ne peut pas respirer tout seul?
Non. Non, il ne peut pas.
Oui, c'est ma place.
C'est intéressant.
Vous avez goûté le truc au concombre?
C'est le bruit d'Ariel suçant le boudin.
Ça, c'est une autre alarme.
Sandrine, l'attention du monsieur du 7. Je vais remettre ça. Je suis obligée de vous attacher. L'attacher au lit, quoi. C'est juste les mains. Donc ils comprennent pas tout. Alors c'est un peu déconcertant parce qu'on a vraiment l'impression, mais on l'a retrouvé dans son caca de partout. Pas possible. Et sa femme le vit mal. Et le problème c'est que c'est pas elle qui passe 12 heures avec lui et elle ne se rend pas compte qu'il met sa vie en danger. Donc, mais l'attachage des mains c'est un sacré problème. Mais même pour nous, hein, on se ferme. Enfin, on se ferme pas les yeux, mais c'est vrai que on n'a pas trop envie d'aller creuser là-dessus, hein. Allez, on repasse dans l'autre monde.
C'est des dates, c'est pas des filles.
Ben oui, j'ai dit des dates.
Et là, il y a des pruneaux avec ton truc, il n'y a pas que des dates.
Et non, sérieusement, goûtez ces dates.
Attends, mais c'est pas des dates, ça, c'est des pruneaux.
Ouais, non, mais ça, regarde un peu, regarde ces figues. Et puis elles sont vraiment très bonnes.
C'est pas des figues.
Elle est con.
Non, mais ton cerveau, il s'abîme. Hein. Plus tu travailles la nuit, plus tu es fatigué.
Moi, je trouve qu'ils sont très graves, les gens de nuit. Mais la nuit, il n'y a pas la structure hiérarchique. Il n'y a pas ce carcan, il n'y a pas tous ces affrontements.
Toutes les contraintes annexes au vrai travail. La somme de paperasse, le téléphone qui sonne tout le temps, les familles, et la visite des médecins, les travaux à faire dans le service, t'as trois ouvriers. Enfin, il y a plein de trucs la journée, en plus du travail pur. La nuit, c'est supprimé tout ça.
Et il y a une ambiance. La nuit, c'est propice à des confidences, c'est propice à une solitude en tous les cas. Il y a des impressions que tu ne pourras jamais aller de jour.
Ouais. C'est vrai que les malades, elles sont différents la nuit. On dirait que ce qui est... Ils vont à l'essentiel. Ils vont à l'essentiel.
Ouais.
soit dans le bien ou dans le mal. D'abord, ils osent dire des choses parce qu'ils ont l'impression peut-être qu'on a plus de temps pour les écouter.
Ils ont la trouille de la nuit.
Il y a aussi ceux qui ont peur de mourir parce que je sais pas si statistiquement on meurt plus la nuit que le jour. Ou à l'aube, on meurt peut-être plus à l'aube.
Bien sûr.
On meurt plus.
On meurt plus.
Vous voulez un sarment de vigne avant de partir à l'orange?
C'est bien ça, c'est la nuit essentielle, c'est la nuit propice. On passe d'un monde à l'autre, la gaieté du corps de garde au désarroi, à la souffrance, au naufrage, à la mort, qu'il faudrait bien rapatrier, qu'il s'agit de rapatrier dans ce monde-ci. Comment peut-on continuer à euphémiser, à cacher, à mettre tout ça dans un ghetto, sinon de courir le risque de ne plus savoir que nous existons, tout simplement, de ne plus savoir penser. Et ces gens, ces infirmières, ces aides-soignantes ou soignants savent tout ça. Et toutes les nuits, pensent à ça, vivent ça, et nous rapportent ces mots. Surpris.
Où on va là alors ?
Alors là, on va aller à Despo, qui est un pavillon où les malades sont tous, quasiment tous, atteints soit de cancer, soit de sida. Et c'est le pavillon, je crois, le plus long où on va. Il fait 450 mètres de long. Donc voilà, tu vois, ici c'est l'accueil, et ça c'est le couloir des bureaux. Quand exceptionnellement je trouve un malade qui traîne, on est deux fantômes. C'est vrai, il y a vraiment une histoire. S'il y a une seule personne, on la sent, et elle-même se sent. On est vachement important parce qu'on les remplace tous. Là, les colonnes d'eau, on entend aussi. Ça, c'est les bruits électriques.
Ça aussi, ça fait pour s'en partir sans fermer le robinet. Voilà.
Ça, c'est une des choses qui m'a toujours surprise. On a la sensation, nous, les gens de nuit, que les infirmières de jour, elles laissent les choses là. Elles ont l'impression qu'il n'y a pas de vie pendant qu'elles ne sont pas là. Et effectivement, on pose les trucs là, en vrac. On va les reprendre tout à l'heure, quoi. 12 heures plus tard. Il y a les pots de café, donc c'est tout prêt pour demain. Voilà, donc là c'est des chariots chauffants.
Ça sent la soupe.
Ça, c'est garé là, on sent.
Et puis juste derrière, il y a un fauteuil roulant. Et puis derrière encore, il y a des bassines, des sacs pour le linge.
Le linge propre, il y a des... Après, il va jusqu'au bout, alors il y a un virage. Quand on va au bout, là-bas, c'est vraiment le bout du bout. Hein.
On entend nos pas, on s'entend parler, des fois. Vous savez, les bruits sont doux, mais les bruits ne sont pas moins violents, pourtant. C'est-à-dire que si vous voulez, en passant près d'une chambre, bon, vous imaginez tout ce qu'il y a derrière, et c'est d'autant plus facile de l'imaginer que vous le vivez. Hein. Il n'y a qu'à passer la porte pour savoir ce qui se passe, et... on ne peut pas ne pas être concerné par tout ça, si vous voulez. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui rêvent. Il y en a qui cauchemardent.
Il n'y en a pas un qui respire pareil, quoi. C'est chaque malade, même quand il dort, ils sont différenciés par leur manière de respirer. Alors parfois on est suspendu parce qu'on n'entend pas. Et bon, c'est ces moments-là quand on attend, quand quand on attend la mort, par exemple. Alors parfois, on vient 20 fois, 30 fois, et on écoute, et on attend, et on saisit à peine un petit souffle. On se dit, bon, c'est bon, ça va, elle respire toujours, quoi. Et on va faire un tour, et on revient, et on recommence.
On les entend quand ils se réveillent, parce qu'ils respirent pas de la même manière. Par exemple, ou bien quand ils souffrent, ou bien quand ils ont des problèmes, on les entend beaucoup mieux.
On a l'habitude de les regarder dans la pénombre. Donc on les... Voilà, on attrape des yeux de chat, dit Joël.
Ils meurent seuls la nuit, plus que le jour. C'est-à-dire que vous êtes là dans une chambre, vous savez qu'il va mourir, et ben vous avez une sonnette, vous y allez, vous revenez, il est mort. Ils choisissent leur moment.
Souvent ils choisissent mourir. Quand on s'en va.
Il attend que d'être seul pour partir. Enfin, c'est très rare qu'il meure avec nous, enfin, vraiment avec nous dans le sens dans nos bras. Enfin, ça c'est très très rare. C'est enfin la nuit, parce qu'effectivement on peut pas rester puisqu'on est enfin quand on est seul, on peut pas rester à côté tout le temps.
Est-ce que j'entends ? Ouais.
Mmh. Il y a quelqu'un qui tousse là.
Et en bas, il y a un service qui fait quasiment que des soins palliatifs, c'est-à-dire que des... Enfin, qui n'a que des malades mourants, quasiment. Et donc là, il y a beaucoup, beaucoup de travail, quoi, parce que elle... Oui. Mais elle rigole beaucoup.
Ah oui,
ça c'est aussi une des particularités de la nuit, le rire. Alors là, on va les écouter, attends.
À propos des plus poilus.
Continuez sur les foufounes.
C'est pas vrai, si.
Qu'est-ce que vous faites?
On travaille.
On parle de foufounes.
Ça n'a pas l'air, hein. Soins palliatifs.
Séro, gastro, neuro, soins de suite, court séjour, on fait tout, nous. C'est lourd, oui, très lourd.
Au début, quand j'ai connu ces cafetières électriques, ça me traumatisait parce que ça faisait exactement le même bruit quand un malade est plein de sécrétions et que la machine, alors ça fait exactement le bruit de la cafetière.
Il existe un autre monde, mais il est dans celui-ci. Et le voilà, c'est le monde de la nuit, d'un hôpital, pas très loin de Paris. Ce que dit la nuit, ce qui se dit la nuit, les bruits, l'intensité, la tension portée au bruit, et donc, automatiquement, aux odeurs, aux parfums, et donc, automatiquement, aux idées, à la pensée, et donc automatiquement à la vie, à l'essentiel.
On l'entend au loin, la chouette. Normalement, il y en a une là qui vient là, juste dans le grand arbre là, à gauche. Et une juste qui se pointe là. Oui, et elle semble.
J'ai entendu quelque chose bouger dans l'arbre là.
Elle est pas là ce soir. Ils sont pas là. Il fait trop froid.
Le vent est d'ouest.
Ouais.
Il fait froid. Bon, moi je m'en vais. Je vais faire mon tour de l'autre côté. Hein.
Tu vas faire ton tour.
Oui.
On se trouvera peut-être tout de lui.
D'accord.
Ça commence à nécroser sous les talons. On va juste la masser avec de l'huile de noyau.
On les connaît bien, donc on sait qui on peut réveiller, pourquoi. Et bon, qu'est-ce qu'elle a cette dame sinon? Elle a une tumeur cérébrale. C'est une fin de vie d'une tumeur cérébrale qui flambe depuis le mois de décembre.
ça, on change un petit peu. On va pas la tourner parce qu'elle dort bien. Et comme ses fesses, ça va. Parce que la nuit dernière, elle a pas dormi. Elle a peur de mourir étouffée, bon, ce qui n'est pas faux. Hein. Et ça ne se passera pas. Et ça, c'est bien. Alors, de la voir dormir comme ça, d'une traite, comme un bébé, alors c'est sensationnel parce qu'elle était très, très angoissée. Très angoissée.
C'est
magnifique. Bonjour. Oui.
C'est vos visiteuses ? Nous, on mange pour changer.
Il n'y a pas bougé.
D'abord, on a sorti la bouffe, on a fait le café.
Ils n'ont pas arrêté de manger depuis.
On ne mange. Non, c'est pas arrêté.
On a pas arrêté de faire de la merde, des massages.
Et d'un seul coup, là, on se pose et on a faim.
6h moins 10.
Ouais.
6 ans, c'est un gros tour.
Plus les transmissions écrites.
Ah, bah si, c'est toutes les. Si, vous faites tout, les poubelles.
Non, on fait les poubelles surtout. Les poubelles, on est censé leur rendre le service propre et rangé.
J'ai lavé par terre,
parce que pendant 12 heures, on a le droit de laisser notre fouillis, mais à 7h30, tout est nickel.
Ouais. Après, on leur remet les choses dans leur ordre à eux. Même quand on change les tables de sens, Michel, hein, ça ne tient pas jusqu'au matin.
Là, j'ai lavé
par
terre. Ouais. Je vais laver. C'est traumatique. Ah, le matin, c'est le 6h26, hein.
Merci. Ça, c'est la tâche du matin.
Ouais. Ouais, le matin, il faut aspirer. Et c'est vrai que c'est plus difficile à supporter le matin quand on est un peu nauséeux, qu'on a bu beaucoup de café.
C'est terrible, ces odeurs. C'est un métier de misère, quand même. Il faut être gai pour faire ce métier. Bon, allez, juste ici.
Et les poubelles, elles sont...
Depuis qu'il n'y habitue pas. Non, jamais. C'est marrant, hein, parce que...
Les odeurs,
ah non, jamais.
C'est le pire. Dans mon métier, c'est le pire. J'ai pensé que ça allait disparaître et ça ne part jamais. Les gens, il faudrait aussi être un peu plus sincère, même quand, par exemple, ils chient des fakes, ça fait partie des choses de la vie. La pisse, la merde, ça fait partie du jeu. Il faut les rassurer, leur dire que... Les mettre en confiance et que c'est désagréable pour tout le monde, je veux dire. Mais si nous, on était dans le lit à leur place, c'était exactement la même chose. Pourquoi tu ris comme une baleine ?
Attendez, monsieur.
Quoi ?
Pas bien.
Tu pourrais dire Ariel, elle est embêtée là sous les fesses de. Ah oh, non. Ariel, elle coupe les poils du cul. Alors tu.
Ben, il y a du duodène qui était collé. Les grumeaux, tu les retires comment ?
Les grumeaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas être normal quand on fait ce métier, je suis sûre. Puis regarde, elle y prend plaisir. Hein.
Donc, il y avait de la neige le jour là. Et puis, je me souviens que ça m'avait paru assez long quand même. Je voulais pas y aller, je lui dis attends, je vais trop tôt. Maman qui me disait si, faut y aller.
Arracher quelque chose à la mort. Du crépuscule à l'aube, la nuit règne en souveraine. L'aube naît de ce que la nuit cède sur sa noirceur. Elle est une concession de la nuit au jour, comme le crépuscule en est la reprise intransigeante. L'ombre est une petite métaphore de la nuit, qui s'installe dans le jour comme chez elle. La nuit peut surgir de n'importe où, comme pour signifier qu'elle seule, un jour, sera définitive. Qui écrit ça ? Une infirmière, Anne Soliver, qui est là et qui nous fait découvrir les mots de la nuit limite, celle du moment où des hommes affrontent ce que la douleur fait aux hommes, ce que la mort fait aux hommes. Cette victoire toujours remportée jusque-là sur la mort. La mort est ce que la vie épuise.
C'est flou, je suis entre deux eaux.
Voilà, tout à fait. Ça représente, c'est bon, les angoisses du petit matin. Parce que c'est aussi souvent le petit matin que les patients décèdent. C'est aussi, ça correspond à une angoisse plus forte.
Comme s'ils avaient tenu toute la nuit et puis qu'épuisés, ils lâchaient au petit matin.
6 heures du matin, c'est le passage de la fin de la nuit, le début du jour. C'est une espèce de transition. Et effectivement, c'est la nuit, c'est calme. Donc, quelque part, est-ce que je suis déjà passée de l'autre côté? Vous voyez? Donc, bon, effectivement, c'est des patients que je passe voir régulièrement. Et dans la journée, c'est vrai qu'il y a une telle multitude, un tel bruit. Souvent, ils dorment beaucoup plus la journée, d'ailleurs, que la nuit. Parce que bon, ils sont le ronron de la vie, c'est le rythme des filles de jour avec le bruit que représente la journée, les passages rythmés par les horaires des repas, des visites, des échanges, etc., des soins aussi. Et alors que la nuit, bon, d'abord je suis toute seule, il y a des notions qui sont presque inversées, donc ils restent plus éveillés la nuit, dans une espèce de demi-sommeil. Et mais ce monsieur, c'est un monsieur par exemple qui encore il y a 2-3 nuits était encore très violent dans sa demande, qui sonnait beaucoup parce qu'en fin de compte il avait toujours besoin d'être rassuré en permanence, alors que là bon effectivement le traitement a un petit peu changé aussi et il est beaucoup plus apaisé. On peut se dire qu'effectivement, la semaine prochaine, quand je vais revenir travailler, c'est pas évident qu'il soit là. Voyez-vous? Donc, ça aussi, c'est... Bon, c'est... Mais on rentre effectivement, depuis le mois de décembre, dans cette période difficile des fins de vie.
C'est l'hiver.
L'hiver, oui. L'hiver, c'est... La nuit paraît plus longue. Ce métier-là, je crois qu'on le fait aussi pour vaincre ses propres peurs. On ne devient pas infirmière par hasard. C'est des peurs d'enfants, des peurs de la maladie, de la mort, de la souffrance. Peur de manquer d'amour, manquer de... Et c'est vrai qu'ici, il y a un relationnel très affectif. De jour, je trouve qu'on a une relation plus collective. Voyez, et cette individualité la nuit rend la relation avec le patient, les patients, plus affective. On a plus l'impression de donner de soi et que le patient se rende compte, puisque c'est la référence, quoi. On est la référence de nuit, parce qu'il y a vous. Voilà.
Difficile passage de l'aube. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un reportage dans une maternité à Paimpol. Sur une naissance, tout simplement, sur la chose la plus ancienne du monde, c'est-à-dire naître. Et la sage-femme nous expliquait comment l'aube était le moment où les femmes accouchent. Alors on voit, là on est vraiment, on tient là, et debout de la corde. C'est le petit matin où tout apparaît, tout disparaît.
Il y a une idée de tenir jusqu'au matin. Hein. Ça me fait penser souvent à la petite chèvre de Monsieur Seguin. Et là, on va assister. Alors, ça va commencer à circuler. D'ailleurs, ça commence à circuler. Là, les femmes de ménage, là, parce que là, il y a un chariot qui n'était pas là tout à l'heure. C'est la trace de la femme de ménage. Et dans, d'ici 5 minutes, elle va commencer à ouvrir les portes et on va geler. Tu veux qu'on aille jusqu'à la cuisine ?
Ouais.
Donc, ils sont en train de préparer le petit déjeuner.
Ah, oui, ça y est. Donc, ça y est, ça s'active.
Voilà.
Les baguettes de pain.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Oui.
Salut Michel.
Bonjour, on va bien. Il y a les autres qui finissent le café, là, puis on rattaque.
Il faut leur faire un café aux meufs de jour, là, autrement ils vont tirer la gueule.
Salut.
Ça y est. Elles sont toutes fraîches, là.
Tu veux bien aller avec moi ?
Bah oui.
Bah ouais. Au revoir. J'ai un petit coup de barre. J'ai un genou qui commence à me faire mal, mais c'est bientôt la quille. Mais je crois que ce matin, je ne vais pas faire l'ampe.
Oh. Ça fait frais. Oh là là. Ah, le bruit des voitures. Parce qu'on n'avait pas le temps.
Merci, merci à Sylvie Coma, merci à Anne Perrault-Soliver, aux infirmières de nuit. Anne Perrault-Soliver, je crois qu'on l'a rencontré ces jours derniers ou en ce moment. Renseignez-vous sur France Culture dans cette excellente émission qui s'appelle Surpris par la nuit, le soir sur France Culture. Technique aujourd'hui, Patrick Henry et Christian Thibaudeau. C'est Antoine Chaot qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Pascal Pascariello, Yann Chouquet et Christophe Imbert, c'est l'équipe de La Basse, j'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est le moment, maintenant, que vous attendez tous, Françaises, Français, la pub.